Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission Polaire, nouvelle émission sur Micro Rebelle. Alors Polaire, c'est politique plus éducation populaire. L'information politique, sociale et économique qui nous est servie aujourd'hui se caractérise par une logique de scoop, par des effets d'annonce, des déclarations d'experts, un manque de recul devant ces déclarations d'experts, une absence de pluralisme, l'absence de voix de gauche, absence de voix dissonante au profit de la brosse à reluire à l'égard du gouvernement et du patronat, une dépolitisation des enjeux, éclipsant systématiquement les débats de fond au profit du petit jeu politicien, une surenchère sécuritaire, des amalgames et des propos racistes avec leur traduction « haro » aux islamo-gauchistes, une banalisation des idées d'extrême droite et du nationalisme, le dévoiement du sens des mots se traduisant par la disparition des idées qu'exprimaient ces mots, une information guidée par l'absence d'alternative à toute situation vécue. Alors la crise sociale et économique s'aggrave, les inégalités s'accroissent, l'environnement est sacrifié. Concomitamment, la concentration des médias capitalistes s'accélère et le fonctionnement de la presse s'inscrit dans une ubérisation accrue. Et Polaire se propose d'apporter au champ de l'information des perspectives politiques d'une transformation radicale. Alors lors de notre première émission Polaire, nous étions en compagnie de Fanny, de l'Union communiste libertaire, l'UCL. Et aujourd'hui, nous avons un autre membre de l'UCL. Il s'agit de Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors Daniel, je te laisse te présenter tout d'abord avant de présenter l'émission en tant que telle.
Alors voilà, je me nomme Daniel. Je travaille dans l'industrie automobile dans une usine du nord de la France. Et je suis syndiqué CGT.
Et donc tu es membre de l'Union communiste libertaire.
Membre de l'Union communiste libertaire, oui.
Tu peux nous redire... Fanny l'avait fait, mais tu peux nous redire en quelques mots les grandes orientations de l'UCL.
Alors l'UCL, c'est une organisation communiste libertaire qui lutte pas mal sur l'écologie, pour le féminisme, l'antipatriarcat, surtout pour l'anticapitalisme, voilà quoi.
Très bien, merci. Anticapitalisme, antipatriarcat, féminisme.
Écologie aussi,
effectivement. Merci de cette précision. Alors, aujourd'hui, on vous propose une thématique autour des solidarités internationales, en quelque sorte, et de l'articulation de nos luttes. Et on a pris un angle d'attaque un petit peu spécifique. C'est la question du libre-échange et de... son contraire, en quelque sorte, je ne sais pas si c'est vraiment le contraire, mais qui serait le protectionnisme. Alors, on essaiera de voir avec toi, Damien, ce que tu penses de ça, de cette contradiction. Est-ce que c'est une vraie contradiction? Est-ce que... et puis, quel est un petit peu le type de posture, de positionnement qu'on pourrait avoir devant cette contradiction, cette fausse contradiction qui serait libre-échange et protectionnisme. Alors peut-être on va commencer déjà par développer le libre-échange. Je vais te laisser un petit peu redire un peu ta définition du libre-échange. On sait que c'est quelque chose qu'aiment les capitalistes et les libéraux. Mais alors quelle est ta définition? Qu'est-ce que tu vois un peu comme... déjà on va commencer peut-être par des aspects négatifs de cette question du libre-échange. Puis éventuellement des aspects positifs, si tu en vois. Je te laisse la parole à ce sujet.
Donc, pour moi, le libre-échange, c'est quand même une arme du capitalisme. Enfin, ça leur permet, en fait, de pouvoir faire du commercé librement, à bas coût surtout, et sans non plus trop faire attention à l'écologie, parce que, bon, on peut faire extraire des minerais de façon qui sont pas très écologiques par exemple quoi.
Alors le libre-échange donc peut-être je vais en dire quelques mots pour nos auditeurs et auditeurs, c'est le fait que, je reprends ton expression, d'un point de vue du commerce il n'y aurait pas de barrière douanière, autrement dit liberté complète de commercer et puis de en amont du commerce en tant que tel, de la production, c'est ce que tu indiquais.
Oui.
Voilà. Alors, les aspects négatifs que tu aurais envie de mettre en avant. Enfin, les aspects critiques, je ne vais pas dire négatifs, je dis les aspects critiques que tu aurais envie de mettre en avant.
Bah, disons que ça permet au capitalisme de pouvoir payer à bas prix de la main-d'œuvre bon marché dans certains pays. Dans les pays où il n'y a pas vraiment beaucoup de droits syndicaux, pour que les personnes puissent se protéger un peu de tout ça, ce qui fait que bon, bah, ça peut être des journées très, très compliquées de travail pour ces gens-là. Et pour vendre des produits à bas coût dans d'autres pays qui peuvent se permettre d'acheter, enfin, qu'ils ont un peu plus de moyens pour acheter ces produits, en fait.
Donc, en gros, le libre-échange, c'est tout bénef pour les patrons et le capitalisme.
Quoi. Exactement.
Alors, est-ce que tu vois, malgré tout, des aspects positifs ?
Moi, j'en vois aucun, non. Bien au contraire, ça désolidarise les peuples entre eux, en fait. Hein. Ça les met en concurrence. C'est ça, c'est un point auquel je trouve que c'est, on va dire, négatif, même critique. Parce que, bon, il n'y a plus de... Il n'y a plus l'entraide entre un ouvrier qui va être allez, chinois ou français. Ça fait un fossé, en fait. Ça crée un fossé pour dire, voilà, c'est comme ça. Voilà, on ne leur donne pas de droits. Ici, en France, on nous en retire aussi. Enfin, on arrive à opposer, en fait, les peuples au nom du bénéfice du capital.
Oui, donc, toi, cet aspect d'unité en quelque sorte des peuples et des travailleurs, c'est quelque chose qui te semble quand même
important. Oui.
Important. C'est
important pour pouvoir obtenir des droits, oui.
Alors, je ne sais pas comment dire, la contraposée du libre-échange, c'est le protectionnisme. Hein. Bon, d'abord, on peut dire que c'est quelque chose qui est de plus en plus, je ne vais pas dire à la mode, mais enfin, quelque chose qui est de plus en plus évoqué.
Médiatisé, oui. C'est beaucoup plus en plus médiatisé, à l'origine par l'extrême droite. Ensuite, ça déteint un petit peu sur les partis qu'on pourrait appeler de gauche aussi, hein, qui commencent à être un peu protectionnisme, comme la France Insoumise.
Alors qu'est-ce qui les motive là-dedans ?
Les élections.
Alors, autrement dit, ça veut dire que les électeurs, eux, seraient sensibles à l'idée de protectionnisme, c'est ça ?
Bah, disons, je pense qu'ils essayent de récupérer une partie électorale qui voterait à l'extrême droite. Donc c'est là qu'ils vont parler de protectionnisme, justement, pour essayer de récupérer cette partie à des fins électorales.
Alors peut-être qu'on va essayer de développer cette question. Le protectionnisme, mis en avant comme étant... la contraposée du libre-échange, ça veut dire que le protectionnisme entend quand même développer des aspects que n'aurait pas le libre-échange. Autrement dit, si je prends ce que tu as dit, comme aspect négatif, aspect critique du libre-échange, je vais à produire à l'étranger dans des pays à bas coût de façon à bénéficier de davantage de profits, hein, dans l'immédiat, et puis ensuite de façon à bénéficier d'une certaine tranquillité. Hein, c'est quand même mieux là où il n'y a pas de normes sociales. Le protectionnisme empêcherait ça. Donc, autrement dit, il y a peut-être quelques aspects qu'on peut relever, sans parler d'une volonté électorale, il y a quand même quelques aspects qu'on peut relever qui seraient positifs dans le protectionnisme. Qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, j'en vois pas tellement, mis à part peut-être du produire local, peut-être, à la limite, pour limiter peut-être les transports et la pollution, mais c'est, je pense que c'est infime quand même.
Oui, autrement dit, effectivement, produire localement, c'est produire de manière plus écologique. Oui. Il y a d'autres aspects qui te semblent intéressants pas...
Ben, disons qu'en fait, dans la société actuelle, les gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter local, parce que local, c'est parfois un peu plus cher. Donc, on se rabatte sur des produits à bas coût, donc des produits qui sont aussi fabriqués ailleurs. Mais aussi, on peut aussi parler, par exemple, des véhicules électriques, par exemple, aussi. Donc, on a, on va dire, ici, localement, on n'a pas de minerais de fer. Hein. On sait très bien que c'est des pays asiatiques comme la Chine qui ont une grosse partie... qui sont en possession d'une grosse partie des minerais de fer, en fait. Donc, si vraiment on veut partir sur des véhicules électriques, on peut pas faire sans des pays comme ça.
On a besoin, de toute façon, de... au moins des matières premières qu'on n'a pas chez nous, quoi.
Si on veut partir dans ce type de capitalisme, oui. Parce qu'après, il y a... On peut aussi très bien faire avec des transports en commun, ce qui fait que ça limiterait justement l'utilisation de ces minerais. Je pense qu'il y a des choses à creuser à côté, quoi.
Alors ceux qui mettent en avant le protectionnisme disent aussi, ben, au moins, ça donne du travail à chez nous, quoi. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu en penses?
Ça, pour moi, le protectionnisme dévie aussi un petit peu vers le nationalisme. Ça permet de faire un rejet justement de l'étranger au bénéfice du français, comme ils disent.
C'est le fameux travailleur polonais, quoi. Qu'on rejette, quoi.
Ouais, voilà.
Oui, donc toi, ça te pose un problème à quel niveau?
Ça rejette déjà en premier lieu les sans-papiers, ça met les peuples en opposition. Et ce qui amène aussi à ce que beaucoup de gens vont parler de protectionnisme, c'est le fait qu'il commence à y avoir du chômage de masse qui apparaît. Donc c'est la peur du chômage. Donc ils se disent, il n'y a pas du travail pour tout le monde, alors que si, le travail peut être amplement partagé et réduire justement les heures de travail au boulot. C'est des possibilités qui sont possibles aussi.
Alors, tu n'as pas l'air très, très enchanté par le libre-échange, pas très enchanté non plus par le protectionnisme. Qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Je pense qu'il faut déjà travailler syndicalement. Enfin, moi, je pense qu'il faut le faire déjà syndicalement et internationalement, de travailler entre peuples. Voilà quoi. Que ce soit par exemple moi qui suis dans l'automobile, il y a des usines implantées un peu partout sur la planète. Je pense que déjà, si les organisations syndicales mondiales arrivaient à se coordonner pour travailler au niveau international. Pour que ce soit déjà, pour lisser un petit peu le travail sur toute la planète, en fait. On pourrait déjà travailler moins et mieux, je pense.
Alors aujourd'hui ça n'existe absolument pas, parce qu'il me semblait qu'il y avait quand même des fédérations européennes, voire mondiales, syndicalement. Mais ça ne fonctionne pas, d'après toi?
Je sais pas si ça fonctionne. Je sais que ça se fait au niveau d'Amazon, ça j'en ai entendu parler. Que tous les deux ans, en fait, les syndicats Amazon se regroupaient au niveau européen et justement ils parlaient un petit peu de tout ça. Donc je sais que ça se fait déjà au niveau d'Amazon. Je pense que c'est aussi possible de le faire aussi dans pas mal de domaines.
Et donc. Comment est-ce que ça, c'est du point de vue en quelque sorte social, autrement dit du point de vue des travailleuses et des travailleurs, et du point de vue de la production, alors, libre-échange, protectionnisme, comment il faudrait produire alors?
Faudrait déjà produire moins, pour pouvoir aussi partager le travail, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas non plus de travail. Déjà à ce niveau-là, on peut partager, mais aussi écologiquement, ça. Dans le cadre actuel, on produit beaucoup, beaucoup, beaucoup pour produire pas forcément des choses auxquelles on a forcément besoin, quoi. Il y a des choses qui vont être en vente sur pas mal de sites de vente en ligne qui sont pas utiles, mais qui sont mis en avant pour faire acheter les gens des produits inutiles. Et ça fait aussi un peu fonctionner les usines à bas coût dans les pays où ils n'ont aucun droit syndical, où ils vont parfois même dormir dans leur usine, comme chez Apple. Ça peut amener à des choses qui ne sont pas très, très humaines, en fait.
Oui, effectivement. Alors, je vais donner un autre exemple. C'est un concept qui est en train d'émerger. Autrement dit, qui refuse à la fois le libre-échange et le protectionnisme, hein, comme étant finalement, d'ailleurs je ne sais pas ce que tu en penses, hein, le libre-échange et le protectionnisme, est-ce que quelque part le capitalisme, il n'aime pas les deux, quoi ?
Ah non, il adore les deux, ça lui ramène beaucoup d'argent, ça l'arrange, les deux l'un dans l'autre, ça lui va très bien.
Et donc ce concept, hein, c'est un concept qui vient pas directement du monde ouvrier en tant que tel, mais c'est un concept qui vient du monde paysan. C'est le monde paysan qui a cherché un petit peu l'autonomie alimentaire. Autrement dit, c'est notamment les syndicats paysans. Bon, en France, c'est la Confédération paysanne, et au niveau mondial, puisque tu parles d'unité mondiale des travailleuses et travailleurs, c'est Via Campesina. Et donc l'autonomie alimentaire que met en avant Via Campesina, c'est effectivement chaque région du monde doit pouvoir
produire localement,
être autonome localement, sans pour autant refuser ce qui peut venir de l'extérieur parce qu'on ne peut pas le produire localement. Oui. Et donc il y a cette idée, si je l'adapte maintenant à la production en général, cette idée d'autonomie productive, pas alimentaire mais productive autrement dit, qui serait un petit peu... on s'efforce de produire localement sans pour autant refuser. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette...
Je pense que produire localement, oui, mais ouais, il y a des pays où ils ont besoin de produits aussi. Donc ça, c'est une chose tout à fait normale, mais quand ça commence à être... tu vas voir des capitalistes qui vont justement voir qu'il y a une faille pour pouvoir se faire du pognon en utilisant justement ça. Là, ça va pas du tout. C'est là que ça commence à devenir un peu difficile, quoi.
Oui. Là, j'ai envie de te suivre complètement. Autrement dit, l'idée, c'est peut-être de produire
intelligemment
et sans un mode de production capitaliste.
Oui. Par les producteurs eux-mêmes. Enfin, quand je dis les producteurs, les personnes qui sont à la tâche, hein, pas les personnes qui vont diriger des entreprises ou des...
Voilà, ça rejoint en quelque sorte l'idée de socialiser la production,
voilà.
La faire maîtriser par les travailleuses et les travailleurs, les usagers aussi, enfin bon, qu'il y a même pas seulement un contrôle, j'allais dire un contrôle, non, c'est pas un contrôle, c'est la prise en compte complète des travailleuses et...
Et que tout ça soit décidé par des assemblées générales, voilà quoi.
Justement, comment est-ce que tu imagines ça, cette question de produire autrement, en quelque sorte, quoi ? Du point de vue des... Tu évoques un aspect démocratique, hein, Assemblée Générale. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça ?
Par des assemblées générales, déjà, en un premier lieu.
Qu'est-ce qu'on décide dans ces assemblées générales ?
De comment on va gérer la production pour que la production soit faite dans le plus grand respect, on va dire, de l'écologie, par exemple. Aussi que tout le monde s'y retrouve, que ça ne mette pas n'importe qui sur le côté, comme les travailleurs immigrés qui sont refusés actuellement de travailler parce qu'ils n'ont pas de papier dans les entreprises ou des trucs comme ça, quoi.
Donc je me résume, hein, pour être certain qu'on se comprenne bien. Donc l'idée, c'est on produit localement, mais autrement dit avec un contrôle des travailleuses et des travailleurs. Donc on est complètement à l'opposé de la propriété privée des moyens de production.
Oui.
Ça veut dire que ça veut dire que le capitalisme a disparu finalement.
J'espère.
Voilà, c'est un souhait. Très bien. Eh bien, merci Daniel pour cet échange. Je te laisse ajouter, si, je ne sais pas si tu as encore des choses à préciser sur cette thématique.
Bah, je pense que si, on ne sait jamais, s'il y a des organisations syndicales qui nous écoutent, prendre bien en compte en fait, le fait qu'il faut une solidarité internationale, que ça peut être très important, parce que ça pourrait un jour se retourner contre eux aussi, hein, si vraiment on ne va pas dans ce sens-là.
Là, tu penses que... Tu penses qu'il y a peut-être un souci actuellement dans dans différentes organisations syndicales à ce sujet-là ?
Je pense qu'elles commencent à se refermer un peu trop sur elles-mêmes. Après, ce qui est encore compréhensible, parce que bon, elles travaillent aussi à essayer de sauvegarder les emplois, tout ça. Mais il ne faut pas non plus abandonner une vision un peu plus large que le cadre de l'entreprise où on travaille, d'aller un peu au-delà. Parce que même régionalement, parfois, c'est compliqué de voir des syndicats aller lutter dans une boutique qui est à côté, qui va fermer, ou voilà, rien que ça. Déjà, le fait de pouvoir aller dans la boutique d'à côté, ça serait déjà un grand pas. Ensuite, au-delà des frontières, ça sera encore mieux, quoi.
Alors, j'ai envie de suivre un petit peu ton raisonnement, puis de le pousser un peu plus. Là, tu évoques les directions syndicales, et les autres salariés, les travailleuses et travailleurs, tes collègues, quelle résonance ça a, ces questions-là ?
Bah, pour eux, en fait, c'est pour beaucoup, c'est très compliqué parce qu'ils sont très, très individualistes. Donc, c'est beaucoup sur leur crédit à la consommation, leur voiture à payer. Donc, pour l'instant, ils restent cadrés là-dessus, en fait. Au niveau international... Je ne sais pas s'ils ont vraiment eu en fait une conscience politique sur l'international, parce que bon, ils en parlent très peu ou pas du tout. Ça reste beaucoup sur le niveau national.
Et donc ça veut dire que les discussions sont difficiles, ou alors elles ne peuvent même pas avoir lieu, quoi.
Bah, parfois elles ont pas lieu parfois. Ou ça peut arriver qu'elles aient lieu. Hein. C'est très très rare.
En même temps, c'est important.
C'est important. Hein.
Bien, je ne sais pas si tu as encore d'autres points ou...
Je ne pense pas, non.
Bien, merci Daniel. Donc, je rappelle, hein, je ne sais pas si tu l'as en tête, le site de l'UCL. Je regarde en même temps sur mon ordinateur.
Sur le moteur de recherche, on tape Union communiste libertaire.
Union communiste libertaire, sur le moteur de recherche. Merci à toi et puis donc à une prochaine émission, Polaire. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Bye bye.
Au revoir.